Radio Barque, donc notre sixième avec l'invité du jour Didier Mouly, donc maire de Narbonne. Alors on a évoqué un certain nombre d'autres institutions, dont l'agglomération, Narbonne en faisant partie.
Et donc c'est uniquement maire de Narbonne.
Voilà, mais c'est ce qu'on appelle la ville-centre, et bon, on va pas y revenir en tout cas indirectement sur toute cette guerre de tranchées, entre guillemets, et de circonstances aujourd'hui qui est né de cette situation. Bon, bref, aujourd'hui on en est là, mais vous êtes maire de Narbonne, ça c'est une certitude, puisque les élections ont eu lieu depuis un certain temps. Et alors vous avez lancé un certain nombre de travaux, donc dont certains font l'état de polémique, la grande salle, on va y revenir. Je vais commencer par un dossier un peu moins important, mais qui l'est pour certaines personnes quand même, c'est la nouvelle zone commerciale, je ne sais pas si c'est le nom exact, du domaine de Lacoste, à côté du départ de la future rocade Est. Il semblerait l'accueillir des problèmes alors de voirie par rapport à l'aménagement. Et ça avait fait d'ailleurs l'objet d'un article dans la presse écrite, qui existe encore à Narbonne, tu vois, Michel, la presse écrite, quand même. Bon, alors, bref, elle existe et elle avait donné la voix à un certain nombre de riverains qui se plaignaient que la façon dont l'aménagement allait se faire ne leur plaisait pas du tout, allait les troubler. Et il semblerait que vous ayez, alors peut-être, je cite mal, mais plus ou moins découvert une situation que vous ne sembliez pas, Didier Mouly, approuver.
Alors il y a une situation, celle des travaux, et puis il y a l'action au quotidien qui fait qu'on oublie peut-être ce qui a été décidé et même voté. Le conseil municipal, en décembre 2017, vote un aménagement sous forme une structure administrative permettant de reconsidérer les alentours du domaine de Lacoste, pour deux raisons. D'abord, la réalisation future en bordure de la voie rapide, de la voie verte à la charge de la ville, qui ne devrait pas déboucher carrément sur le rond-point de Narbonne-Est, parce que ça serait incompréhensible de faire arriver une voie verte directement sur ce rond-point très fréquenté, mais une volonté de la faire terminer vers la ville plutôt que vers ce rond-point. En même temps, l'aménagement du domaine de Lacoste, qui est quand même un aménagement prévu en 2013 par Monsieur Bascou, qui signe un permis de construire à Monsieur Dondedeo et qui n'a jamais réalisé le projet commercial qu'il avait envisagé, s'est cédé à SM Promotion, qui réalise un nouveau projet commercial sur la même zone, avec la même surface. Et donc on voulait arriver à combiner à la fois cet aménagement du domaine de Lacoste commercialement parlant, avec l'aménagement de la voie verte. Et donc il a été voté en 2017 cette possibilité de réaliser avec les différents intervenants sur ce site ce nouvel aménagement de la voie publique. On a voté aussi au conseil municipal le transfert de la départementale qui partait juste du domaine de Lacoste et qui arrivait jusqu'au rond-point suivant, le transfert à l'euro symbolique entre le département et la ville. La ville devenant propriétaire de cet ensemble a travaillé sur un aménagement concerté. Je pense que les riverains ont pris peur en voyant les travaux commencer, puisqu'en réalité, à la suite de la réunion de concertation que nous avons faite, l'ensemble des riverains a apprécié les travaux qui en ont été faits, puisque on ne pourra plus passer devant chez eux directement pour aller vers les quartiers est de la ville. On va continuer sur la voie principale et on tournera à droite pour pouvoir rejoindre ces quartiers. Ils auront donc moins de circulation et une circulation à moins vive allure, ce qui les inquiétait, puisque cet accès devant la salle des ventes ne sera plus direct, mais on devra contourner le poste de relevage des eaux. Ça va créer une autre circulation, un autre type de circulation, et ça ne sera une circulation que simplement celle qui ira à ce nouveau mini-centre commercial.
Voilà. Mais cette notion, alors ça avait fait, comme on s'en doute toujours, et y compris sur les réseaux sociaux, un début de polémique. On avait l'air de dire, mais le maire, quoi, il est pas au courant, il fait semblant de pas être au courant. Bon, c'est un petit peu ce côté-là qui semblait.
Ce côté-là, c'était la réalisation détaillée des travaux qui n'était effectivement pas connue, puisque il y a un service d'aménagement de l'espace public, il y a un service de l'urbanisme, ça travaille en concert. avec les élus qui sont en charge de ces différents postes. Le maire n'a pas besoin de donner un aval, un veto, n'a pas besoin de valider un projet de réalisation sur le terrain. Donc effectivement, c'est quand les habitants de la Coste m'ont alerté que j'ai découvert l'ampleur de ces travaux. Mais la conséquence de l'ampleur de ces travaux fait dire que ils ne seront pas pénalisés, en tout cas, je l'espère, et je leur ai promis qu'une fois les travaux terminés, on reviendra sur site, hein, les élus et les techniciens, pour apprécier s'il y a des adaptations, des modifications à faire.
Voilà. Alors, passons à d'autres dossiers. Il y a la grande salle. Il y a, on va peut-être aussi continuer par celui-là, le musée, ou plus exactement, les abords du musée, puisqu'on sait que le musée de la Romanité, qui maintenant est Narbovia, on sait que la ville doit aménager le parvis. Et puis, il y a aussi, depuis quelque temps, un nouveau chantier qui se profile. C'est l'aspirateur qui doit être transformé en poste de police municipale. Tout ça se jouxte, hein, bien entendu. Où en est-on à ce niveau-là? Le parvis, quels sont les projets sur cet aménagement?
Le parvis lui-même sera à la charge de la région, puisque le devant même de la porte d'entrée du musée est à la charge de la région. Mais c'est l'ensemble qui part du pont de l'Avenir et qui va jusqu'au rond-point de Narbonne-Est, qui va être réaménagé en concertation avec la région, le Grand Narbonne, la ville de Narbonne et le département, si celui-ci donne une réponse favorable aux demandes qui ont été présentées, tant par Madame le Président de la région que par Monsieur le Président du Grand Narbonne et par moi-même. Donc on attend la réponse du département, mais cet ensemble va être réaménagé en totalité. 13 millions d'euros ont été déjà actés par l'ensemble des collectivités concernées, la région en prenant la moitié à sa charge. Il y aura tous les parkings qui jouxtent le théâtre, tout l'espace vert qu'il y aura derrière l'aspirateur et en bordure du canal de la Roubine, l'entrée de devant le musée de Narbovia, et toute la voirie, déplacement doux et voirie, qui va s'échelonner du musée jusqu'à l'entrée est de la ville. Le parvis du musée a une grande difficulté, c'est qu'il a devant deux stations de relevage d'eau, eau de pluie et eau usée. Le déplacement de ces deux pompes de relevage va s'effectuer dans le triangle qu'il y a devant le parc des sports à hauteur du carrefour des plages. C'est la plus grosse partie des travaux à réaliser, financièrement parlant, et en même temps des travaux en eux-mêmes, puisqu'il va falloir modifier le raccordement pour aller vers la station d'épuration, et cela passera par l'ancienne route de Gruissant.
Voilà. Rappelons que ce sont d'abord des équipements qui sont fort inesthétiques et inappropriés au décor.
Un odorat, c'est aussi pas terrible.
Aussi. Et alors, quant à l'aspirateur et à la police municipale, où en êtes-vous?
Ben, le permis de construire a été déposé et je pense que les travaux pourront commencer dans le délai, une fois le délai d'instruction terminé, qui est de 2 à 3 mois, normalement d'instruction. Cet aménagement devrait commencer donc d'ici cette fin d'année et trouver dans l'année qui suit le transfert de la police municipale.
Dans l'année qui suit, c'est-à-dire 2019?
En grosso modo, on part du principe qu'il faut 12 mois pour réaliser parfaitement les travaux. Vous savez que c'est un bâtiment industriel qui a toujours
actuellement... Qui n'a pas du tout été conçu pour ça.
Pour cela, qui a toujours actuellement à ses plafonds les ponts de déplacement de certains poids. Donc il faut récupérer ce matériel et également toute cette machinerie, l'enlever et puis restructurer le bâtiment. Le permis est très bien fait par les architectes qui ont conçu. On a repris les mêmes architectes que ceux qui avaient conçu l'aspirateur. Ils ont très bien étudié. Il y aura une double façade végétalisée qui donnera à l'entrée de la ville un caractère quand même. Le bâtiment esthétiquement a une certaine esthétique et un certain cachet, mais ça donnera encore plus une connotation architecturale de qualité.
Mais ce sont quand même de gros travaux d'aménagement intérieur. Ça n'avait pas du tout été conçu pour ça.
Mais il y a l'espace qui permet de faire des aménagements, puisqu'on y regroupera la police municipale et surtout le centre de surveillance urbaine, le CSU, puisqu'aujourd'hui il travaille en parties détachées l'une de l'autre, ce qui est assez compliqué dans les missions. Là, on aura une mission complète de la police municipale.
Et pourquoi le choix du lieu? C'est parce qu'il y avait ce bâtiment qui attendait une affectation nouvelle, ou c'est une volonté de le situer géographiquement? Parce que forcément, certains au niveau de l'opposition disent c'est un mauvais choix, on va mettre la police juste en face d'un musée. C'est un discours d'opposant, évidemment. Mais pourquoi avoir choisi cet endroit et ce bâtiment?
Un autre argument qui est avancé, à savoir qu'on ne peut pas à la fois se battre pour maintenir de l'activité, en fait, de toute une nature, en fait, en centre-ville, et puis déporter effectivement des services publics de proximité.
Alors, réponse.
Je partage ce sentiment. Je ne souhaite pas qu'on on a applaudi et demain, quand l'agglo n'a pas pu réaliser son transfert à la place de la CCI, qu'elle reste en centre-ville. Mais nous avons d'abord ce bâtiment qui a été par la présidente municipalité affecté à l'art contemporain. Il faut se rendre à l'évidence, l'art contemporain à Narbonne n'a pas le succès qui était initialement envisagé. Et la fréquentation, même pour le dernier créateur, artiste local qui s'appelle Patrick Chaper-Gaujal et pour lequel il y a une grande admiration de la part des habitants de la ville, n'a pas donné le résultat en visite et en public venant admirer ses œuvres, supérieur pendant les mois d'exposition au nombre de personnes qu'il y avait le jour du vernissage. Donc il faut se rendre à l'évidence, la situation de ce lieu d'art contemporain ne répond pas à l'idée initiale. Il fallait transformer ce bâtiment. En même temps, nous avons des locaux exigus rue Gustave Fabre et la ville de Narbonne n'est pas propriétaire d'autres locaux permettant de regrouper la police et le CSU dans un même site, sauf à cet endroit-là. Donc ce déplacement apparaît évident puisque la mairie est propriétaire des lieux avec un espace parking qui permet de faire stationner les voitures des visiteurs ou des agents. Ensuite, géographiquement, la ZAC des Berges de la Robine, que nous verrons au prochain conseil municipal du 15 novembre, va accueillir un nombre de logements tel qu'il va y avoir un nouveau lieu d'habitation très important. Et enfin, le déplacement de la police municipale sur la surface importante de la ville même de Narbonne permet une facilité parce que nous sommes sur des axes où nous pouvons aller d'un endroit à l'autre assez rapidement. C'est un peu comme le centre de secours, le SDIS, qui se trouve aujourd'hui. Alors, son accès n'est pas direct sur la voie rapide, mais presque direct sur la voie rapide.
Sur la rocade.
Sur la rocade, à proximité de la rocade, avec la possibilité d'aller aux différents endroits de la ville avec une certaine facilité, sans tomber dans les petits bouchons que nous pouvons trouver à Narbonne.
Une adaptation à la voirie existante sur la ville. Alors, c'est la grande salle, c'est la salle multimodale.
La salle.
Alors,
avait le théâtre, le cinéma.
Bon,
on aura
plusieurs
la salle,
appellations, mais une même polémique, si je puis dire. Bon, là, les travaux ont commencé.
Les travaux ont commencé. La presse locale, toujours existante, mon cher Michel, a relaté les premiers travaux qui étaient prévus et dans le calendrier, un peu retardés avec les intempéries. Mais ces premiers travaux, c'est l'aménagement du terrain avant le fait de réaliser les fondations spéciales, puis les fondations.
On sait qu'il y a un recours qui court toujours.
Deux recours. Un contre le marché, celui engagé par M. Ortiz, et j'ai entendu que M. Sainte-Cluque se l'était approprié, donc je suis très content de savoir que le Parti Socialiste s'associe à ce recours. Donc le recours de M. Ortiz, qui est toujours pendant devant le tribunal administratif, qui n'a pas reçu aujourd'hui de date d'audience, et qui attaque le marché lui-même, sur le principe même du marché, et ensuite le recours au fond aussi de l'association Touche pas à mon parc, qui est dans ses premiers errements devant le tribunal administratif, mais lui qui concerne le permis de construire lui-même.
Voilà, bon, donc on attend, mais en tout cas, les travaux ont commencé, et l'aménagement du terrain bat son plein.
Exactement, à part les intempéries, sinon le calendrier sera respecté.
Mais est-ce qu'il y aura une suite ou il y aura une pause marquée entre ces deux phases?
Non, ça se suit normalement, puisque je crois que les pieux ont été commencés, puisque j'ai vu le matériel qui dépassait la palissade, donc on est en train de réaliser les trous permettant aux micro-pieux d'être installés.
Oui, il y a des bassins de rétention aussi.
En même temps qu'ils se feront dans l'avancement du chantier.
Oui. Alors, bon, donc, de ce point de vue-là, les choses sont claires. Un petit mot, peut-être, Michel, oui, là-dessus.
Oui, on va être ici, en fait, à Didier Boulier, puisqu'il est là. Hein. Je me souviens d'avoir assisté, en fait, à son exposé, à la présentation de cette salle au Palais du Travail. Et il avait dit, je l'attends encore, j'étais au fond, je dis, mais est-ce que je vais intervenir ou pas? Mais non, je ne suis pas intervenu. Il a dit la phrase suivante. Cette salle ne coûtera pas un sou, c'est mon expression, elle ne coûtera pas un sou en Narbonnais. J'avais fait le lendemain d'ailleurs un billet expliquant que c'est pas possible, que ça coûterait forcément beaucoup de sous, fait en euros quoi, hein, à la ville, parce que bon, je ne connaissais aucun gestionnaire de ce genre d'équipement en privé, quoi, hein, même par délégation de service public, qui s'autofinancerait bon, par la vente des billets. Et qu'à minima, ça coûterait entre 500 et 800 000 euros par an.
Alors, monsieur le maire, réponse. Votre
avec plaisir
réponse.
Pour la réponse. D'abord, il y a de l'investissement. Les travaux vont coûter à la ville, mais les travaux vont être autofinancés par la ville, plus un emprunt pour une partie. On abordera ce sujet aussi au prochain conseil municipal. Il y a ensuite le fonctionnement. Aujourd'hui, la ville travaille sur la mise en place d'une délégation de services publics et la société qui s'est présentée accepte que la participation de la ville soit limitée, comme les élus l'ont précisé jusqu'à présent, à la somme de 600 000 euros. Donc ça va coûter, mais il faut que ça rapporte aussi. Il y aura de la part de la DSP une recette, et il nous reste le naming à trouver pour que cette salle ne s'appelle plus la salle et des qualificatifs qui vont avec, mais est un nom de salle.
Ah, vous cherchez un sponsor, le nom de...
Pourquoi on ne l'appellerait pas la salle Michel Santo, par exemple?
Il faut préciser, effectivement, préciser à nos auditeurs, monsieur le maire, ce que signifie naming.
On est obligé aujourd'hui d'employer tous ces mots anglais, s'il y a une association française qui lutte contre l'anglicisme. C'est donner un nom à une salle, en contrepartie, il y a un revenu qui y va. Aujourd'hui.
C'est une forme de sponsoring.
C'est une forme de sponsoring, qui est un mot aussi anglais, c'est-à-dire une forme de partenariat entre une entreprise et une collectivité. Oui. On le voit avec le stade de rugby de Montpellier.
Oui, par exemple.
On le voit avec le stade de foot de Marseille ou de Bordeaux ou celui de Lyon. Ils ont tous une société qui est associée à ce nom de cet établissement.
Oui. Jean-Claude, bon, mais voilà, Radio Grand Sud FM va pouvoir, en contrepartie d'une redevance à Didier Boulier.
Non, à la ville de Narbonne, pas à Didier Boulier, à la ville de Narbonne.
Pas d'ambiguïté.
Pourquoi pas?
Pas d'ambiguïté, oui. Bon, maintenant, il faudrait qu'on fasse un gros emprunt quand même, je le
mais
précise.
Mais non, la notoriété, vous pourriez faire une participation de la part de vos auditeurs au financement de ce naming.
Ah oui, bon. C'est une idée à laquelle on va réfléchir. Pour terminer, Didier Moulier, alors justement, la proposition a été lancée, en tout cas amorcée par tout à l'heure Michel Santo, pour les prochaines élections municipales dont vous ne faites pas mystère, vous serez présent pour ces élections. Il y aura justement, on se présente pour la municipalité, pour la mairie, mais bien entendu, un gros morceau sera, il est caché, mais il sera là, ça sera l'agglo.
Alors, d'une part, pour l'instant, l'élection de 2020 est programmée comme celle de 2014, c'est-à-dire un seul bulletin de vote sur lequel il y aura les deux collectivités qui seront présentes.
Oui, d'une part, l'ambiguïté va demeurer.
Et l'ambiguïté va demeurer. Ensuite, il y a effectivement, en tant qu'élu, une vie au quotidien qui démontre que l'agglomération doit être partie prenante de toutes les réalisations que la ville envisage de faire, ou tout le fonctionnement que la ville envisage de faire. Vous savez qu'on n'avait pas lancé une polémique, mais demandé au Grand Narbonne de participer à la réalisation de la partie voirie où les bus scolaires et les bus de transport communaux vont pouvoir être utilisés. Aujourd'hui, cette voie est plus abîmée que les autres voies. On le voit bien sur les boulevards. Donc c'est vrai que la collectivité territoriale qui est l'agglomération doit participer. La ville-centre reçoit tous les bus de cette agglomération. Il faut bien qu'elle y participe. Si c'est simplement pour faire de la politique politicienne comme le fait actuellement le président de Grand Narbonne, ben oui, on va dire non et on va tourner ça en dérision. Mais c'est une réalité de terrain. Donc ce quotidien, oui, il faut que la ville soit associée avec l'agglomération. Le candidat que je suis, avec tous les autres élus qui partiront avec moi, ben oui, nous voulons que l'agglomération soit prise en considération par l'électorat. Aujourd'hui, il y a, Michel Santo le rappelait un instant, il faut démontrer à l'électorat qu'il y a d'une part la ville, d'autre part l'agglomération. Je prends un exemple. Les containers d'ordures ménagères sont devant, dans toutes les rues, devant toutes les cités, et il y a écrit dessus Grand Narbonne avec un numéro, quand il y a quelque chose qui ne va pas, son implantation ou sa propreté, on téléphone à la ville de Narbonne.
C'est toute l'ambiguïté, justement, du système.
On a sorti un bulletin municipal où il y avait la démonstration, d'une manière très schématique et très simple, des différentes compétences entre l'agglomération et la ville. Le Narbonnais, et je ne pense pas que ça soit propre au Narbonnais, l'habitant d'une collectivité ne sait pas faire la différence entre les deux. On va faire un petit peu d'éducation, mais on va présenter des projets qui seront pas que dans l'intérêt de la ville de Narbonne, qui seront dans l'intérêt de l'agglomération. Et je pense, tout à l'heure, vous avez évoqué, Michel, les sujets relatifs à la région, mais je pense aussi que c'est pareil à notre niveau, le tourisme. Le tourisme est une activité économique pas que pour la ville de Narbonne, pour l'ensemble de l'agglomération. Et aujourd'hui, le tourisme, il est divisé en quatre parties. La ville, l'agglomération, le département et la région. Il faut bien qu'à un moment donné, tout ça, on travaille ensemble. Et effectivement, la ville-centre ne peut pas se passer de l'agglomération pour le tourisme, mais inversement, c'est également pareil. Donc il va falloir une meilleure collaboration et il faut que le lecteur le comprenne. Pour que quand il ira mettre son bulletin de vote dans l'urne, il réponde à la question de Michel. Votez massivement pour les élus qui se représentent à vous, pour qu'ils aient une majorité encore plus importante au niveau de l'agglomération. C'est le souhait que je forme, c'est pour ça que tout à l'heure, avec beaucoup de sincérité, je disais que si Michel m'y autorise, je reprendrai la formulation qu'il a présentée.
Merci en tout cas Didier Moulu, c'est sûr qu'on reviendra sur cette dichotomie, ce problème, cette ambiguïté à chaque fois que vous serez invité. En tout cas, merci d'avoir fait ce point aujourd'hui. Le prochain invité sera...
Merci à vous de m'avoir accueilli, même sous ces trombes d'eau.
Et le prochain invité donc sera Alain Perea, notre député, ben là encore avec quelques polémiques réseaux sociaux oblige, sur lesquels
on n'a que ce que l'on recherche.
Voilà, sur lesquels nous reviendrons. Merci en tout cas aux auditeurs de nous avoir suivis pour cette sixième de Radio Barque et à la semaine prochaine.